je n'ai aucune définition à vous proposer et aucune réponse à la question. Et cela pour une raison d'ailleurs que déjà Philippe Nemo donnait. Il suffit de jeter un regard historique sur l'histoire de la philosophie occidentale, comme on l'appelle, sur d'autres histoires de la philosophie, pour mesurer à quel point jamais la question « qu'est-ce que la philosophie ?» ou très rarement ne reçoit des réponses identiques, proches, voisines, sauf par affinité d'école. D'ailleurs, notre travail, en tout cas mon travail de professeur et d'historien de la philosophie, c'est dans un très modeste canton, d'essayer de décrire ce que sont ces affinités d'école et quels en sont les contenus doctrinaux. Donc je ne vois pas que la question « qu'est-ce que », en tout cas, puisse porter sur la quiddité de la philosophie, pour parler en termes techniques. S'il y a une quiddité de la philosophie, ce que je ne crois pas, ou alors il faut qu'on me la montre, quiddité telle qu'elle embrasse réellement tous les attributs du sujet. Bon, la question, en tout cas, me paraît aporétique. Alors, évidemment, Philippe vient de faire un exposé. J'ai entendu ta voix, Auguste Comte. Et d'ailleurs, je suis très surpris que quelques disciples d'Auguste Comte n'aient pas été joints dans la liste des héros. Parce qu'enfin, tout ce que tu disais, la vision que tu as est de l'histoire de la philosophie et des systèmes philosophiques et de la mission du philosophe, c'est la religion positiviste. Et d'ailleurs, peut-être Auguste Comte est-il un des derniers à avoir produit de manière tout à fait considérable, je en parle avec le plus grand respect, une telle vision du sérieux de la philosophie, reposant sur une croyance effective en son efficacité. Ça l'a conduit d'ailleurs à créer une religion, ce qui justifie assez largement l'affinité qu'il y aurait à creuser entre prophète et philosophe. C'est tout à fait passionnant. Alors je nuancerai la chose, tu es un Auguste Comte matiné de Saint Thomas, ce qui d'ailleurs aurait enchanté Auguste Comte à certains égards. Voilà, et tu es bien le fils de ton temps, tu es le fils de l'époque où nous étions les élèves des grands disciples d'Auguste Comte, qu'on trouvait un peu partout, y compris sous l'aile du marxisme. Althusser est un disciple direct d'Auguste Comte, et un maurassien repenti, si vous voulez. Bon. Alors, je n'ai pas prononcé le nom de Maurras, mais il est évident que dans ton panthéon, là, il correspond entièrement à la définition du philosophe, en l'occurrence. Mmh. Alors, je m'empresse de... Tu verras après. Je m'empresse de dire que telle n'est pas ma... Enfin, avec le plus grand respect, pour encore une fois, pour cette définition et pour ce que tu en as dit, telle n'est pas, en tout cas, ma réponse, tout simplement, parce que ce que tu as dit, m'y fait penser. Il faut partir de ceci que les philosophes et leur philosophie ont eu rarement, très rarement, la fonction synthétique, synoptique, systématique qu'on leur attribue après coup, et en tout cas le pouvoir de l'imposer. Où on les reconnaît, où on peut les reconnaître, c'est dans le fait, pour parler comme Hegel, de déployer, de manifester, de développer un moment de l'histoire de l'absolu. Je crois qu'une des rares approches qui pourrait nous donner sens à l'activité de l'histoire de la philosophie, et donc à son apprentissage, est venu chez Hegel de cette... Je simplifie à l'extrême les choses. Cette idée elle-même dialectique, selon laquelle le vrai est l'esprit absolu, mais l'esprit absolu ne fait qu'un avec sa propre histoire. Autrement dit, il y a une contradiction, si. Une contradiction entre l'historicité de la vérité et le fait que ce soit l'esprit absolu, mais cette contradiction se résout dans le mouvement même de l'esprit absolu. C'est évidemment ce que tout apprenti philosophe ou tout professeur de philosophie a dans un coin de son esprit, Il pense, évidemment, qu'existe une certaine transhistoricité du vrai qui fasse que, quelle que soit la mortalité des systèmes philosophiques, le noyau de vérité, la présence, la manifestation de l'absolu qui s'y déploie, survivent à la ruine de ce qu'il y a d'inessentiel dans le système. Pour parler clair, nous considérons qu'il est toujours non seulement utile mais nécessaire de lire et de relire les dialogues de Platon, non pas parce que c'est un texte mort ou que c'est un texte qui n'aurait de valeur qu'historique dans le cadre de la cité grecque, mais parce que nous considérons de manière confuse, bien sûr, pas toujours claire et distincte, qu'il y a une actualité du platonisme, comme on dit, ou qu'en tout cas il y a une transhistoricité des leçons platoniciennes, non pas pour en faire un guide immédiat de l'action, mais tout simplement parce qu'il est indispensable à la compréhension que l'esprit a de lui-même. Et donc, incapable de définir la philosophie, je m'orienterai cependant vers cette idée selon laquelle il y a une objectivité réelle de l'esprit, et que cette objectivité réelle, qui n'est pas nécessairement l'esprit tel que Hegel le concevait, mais enfin, on peut le concevoir autrement, cette objectivité réelle de l'esprit a une histoire et a aussi une synthèse de ces moments historiques. Et que ce que chacun peut découvrir quand il découvre la philosophie, du moins là, je parle de ma propre expérience, quand il se convertit à la philosophie, c'est qu'il ne va pas faire des études comme les autres, il va commencer d'explorer la plaine de la vérité, comme aurait dit l'auteur fameux. Alors cette plaine de la vérité étant d'ailleurs elle aussi une temporalité de la vérité, un temps de la vérité. Et de là qu'il faudrait évidemment approfondir ce point que je ne fais que mentionner, la philosophie les œuvres des philosophes se distinguent des œuvres des autres savants en ceci qu'elles prétendent à la vérité. Prétendent pas simplement déployer un savoir, prétendent pas par exemple déployer un savoir hypothétique et toujours soumis à correction et à réfutation, comme les sciences de la nature, prétend pas nous dire ce que sont les choses, justement, mais procède à un déploiement inquiet de la vérité. Car s'il y a à la fois absolu et histoire, il y a une inquiétude de l'esprit. Voilà pourquoi, loin d'insister sur la réponse dogmatique, au sens philosophique du terme, hein, je m'entends, il n'y a pas de polémique là, des dogmata, sur la réponse dogmatique aux questions de quiddité, aux questions du type « qu'est-ce que ?», j'insisterai plutôt, mais là, sur mes affinités personnelles que je vous dévoile, sur la dimension dialectique du vrai. Je crois qu'on ne peut pas négliger le fait que Jean-François Prado connaît infiniment mieux que moi, et dont il vous parlerait infiniment mieux, que le fait selon lequel l'histoire antique de la dialectique est centrale pour le destin de la philosophie et se perpétue. Je ne relèverai qu'un aspect de la dialectique qui est le travail du négatif. Alors, laissons l'expression hegelienne proprement dite, la négation. Cette négation, pour prendre la forme d'une mise entre parenthèses, d'une suspension du jugement, peut prendre la forme d'un scepticisme technique, pas d'un scepticisme d'opinion, mais d'un scepticisme technique, mais surtout le travail de la négation est ce qui permet la véritable activité, enfin le cœur de l'activité philosophique, qui est de ne jamais s'en tenir à une forme finie de la vérité. Toute forme finie de la vérité suscite ipso facto sa négation, son abrogation et sa conservation, pour parler en termes hegeliens, pour que ce soit plus aisé d'une certaine manière à saisir, mais aussi son progrès ou éventuellement le fait de se proroger à travers l'histoire. Mais là, nous en sommes encore à des aspects, non pas extérieurs, mais disons globaux. du phénomène philosophique, pourrait-on dire, tel qu'on l'aperçoit dans l'histoire des œuvres qui se disent philosophiques. Mais maintenant, je voudrais dire deux mots de ce que je crois pouvoir dire de l'activité philosophique, et en particulier de quelque chose de très, très, très difficile à, pour moi à saisir, et qui est le moment dans lequel tout un chacun peut se voir attiré par la connaissance philosophique, par la recherche philosophique, par la lecture des œuvres des philosophes, voire même par une certaine prédilection pour ce qui se présente comme philosophie. Bon, que se passe-t-il à ce moment-là, et singulièrement, que se passe-t-il dans une classe ? Parce que la question a déjà été évoquée, on le sait, ça au moins il faut le dire, l'activité philosophique est une activité essentiellement qui a lieu entre maître et disciple. Ça c'est quelque chose qu'on peut considérer comme une affaire transhistorique, comme un trait transhistorique de l'activité philosophique. Il n'y a pas, on ne philosophe pas en solitaire. L'opinion a un régime de la solitude, on peut avoir des opinions dites personnelles, mais la philosophie est une affaire de classe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de débats, et souvent épiques, autour de la nature de la classe de philosophie. Mais je ne vais pas ici rentrer dans des problèmes institutionnels, ce sont tout à fait hors de ma portée. Je prendrai un exemple que j'évoquerai brièvement, un exemple concret, pour essayer de voir un tout petit peu ce qui se passe dans l'activité philosophique qui présuppose donc des maîtres et des disciples. Il va de soi que le maître a d'abord été un disciple et que le disciple deviendra probablement un maître, ou peut le devenir. Donc on va s'apercevoir qu'il s'agit d'une activité de direction, de guidance, en vue de réformer dogmatiquement l'esprit du disciple, mais en vue de l'initier à quelque chose. Il y a dans la philosophie quelque chose d'une pratique initiatique. Je prendrai simplement un exemple qui m'est revenu en mémoire dans les souvenirs de Hans Jonas, du philosophe Hans Jonas. Il raconte comment il est tout jeune, allé prendre ses inscriptions à l'université, et comment il entre dans le cours d'un professeur qui est là, et qui est Edmund Husserl. Bon, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Avant d'ailleurs qu'on lui dise, non, vous êtes trop jeune, vous êtes en première année, vous n'avez pas le droit de suivre le cours de Husserl. Allez donc voir son jeune assistant, qui n'est autre que Martin Heidegger. Husserl, déjà bien âgé à l'époque, était le fondateur d'une nouvelle méthode en philosophie, la célèbre phénoménologie. Et il enseignait dans ce sens l'histoire de la philosophie moderne. Par exemple, quand il avait montré jusqu'où John Locke, David Hume ou George Berkeley étaient parvenus dans l'investigation de la conscience ou dans la théorie de la connaissance, et quel problème ils n'avaient pas encore su résoudre, c'était régulièrement suivi de la phrase « Enfin, la phénoménologie moderne vint montrer comment s'attaquer à ces problèmes ». Donc on a là une figure du maître qui commente les auteurs, étudie les textes en vertu d'un problème qu'en tant que philosophe, il a lui-même déterminé, Husserl évidemment ayant prédéterminé la nature du problème, et se situe comme celui qui, non pas réfute, mais complète, voire bouleverse, l'approche de ses prédécesseurs. Ça, c'est un aspect de l'initiation. Quant à Heidegger, j'allais dès le premier semestre chez Heidegger. Alors, il trouve Heidegger et tombe sur la salle. Le hasard veut que Heidegger commenta le De Anima ou Péripsuché d'Aristote. La première question qui me fut posée quand je me présentais fut « Savez-vous le grec ?» Je répondis « Oui, alors c'est bien. » On commence comme ça. Donc, un préalable donné par le maître, « Savez-vous le grec ? » Si vous ne savez pas le grec, vous n'entrez pas. Bon, là, c'est bien, vous savez le grec. Pourquoi ? Parce que n'importe qui n'est pas apte à lire les philosophes, à lire le Péripsukès, le traité de l'âme d'Aristote, on vérifie déjà l'aptitude du futur disciple. Alors comment ça se passe ? Alors, ça se passe, il abordait chaque question, Heidegger, voilà comment il abordait les questions, Il faisait lire une phrase du texte et demandait « Comment comprenez-vous cela? Que dit Aristote ici? Que signifie ce mot qu'il emploie ici ?» C'était excellent et intelligible aussi pour moi, dit le jeune élève. Le cours de Heidegger traitait des confessions d'Augustin. Il arrivait dans l'amphithéâtre avec un énorme in-folio sous le bras et gardait le texte latin sous les yeux. Je me rappelle que je ne comprenais à peu près rien de ses commentaires, mais que j'éprouvais avec force le sentiment qu'ici était en jeu une totalité et qu'il luttait en fouillant l'objet au plus profond. Alors il se produisit quelque chose en moi. J'ai écrit en ce temps-là une lettre sur Heidegger et sur cette expérience d'une énorme difficulté. Je le suivais un moment, puis je perdais le fil, je ne savais plus exactement ce qu'il voulait dire. Et alors, il se trouve qu'en outre intervient un de ses aînés, Karl Löwith, le futur grand philosophe, qui lui fait un exposé chez Heidegger, et là, plus personne ne comprend rien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette mécompréhension ou incompréhension. Quelque chose se passe dans cette lecture. L'acte philosophique, c'est d'abord une lecture et un approfondissement du texte d'Augustin, et à cette occasion, on s'aperçoit que Heidegger ne distribue pas un savoir, d'histoire des idées. Il ne fait pas un cours sur l'histoire des idées d'Augustin. Il plonge dans le texte des Confessions. Il produit manifestement une herméneutique, une interprétation telle que les disciples ne suivent pas. Et cependant, ils ont le sentiment, par cette initiation au texte, qu'ils sont au contact d'une totalité, dit-il. Une totalité. Totalité peut-être de l'œuvre d'Augustin, totalité de la vérité, totalité de l'esprit. Enfin, bref, quelque chose a lieu, et c'est évidemment pas dans les 2 minutes qui me restent que j'essaierai d'approfondir ce qui a lieu. Alors, cet exemple concret me paraît absolument décisif. Je définirais, non pas la philosophie, mais l'approche de son activité comme ce qui suppose un maître, c'est-à-dire un professeur de philosophie, peut être aussi un professeur d'histoire de la philosophie, les deux choses vont ensemble, et un élève, et il faut que quelque chose se passe, non pas comme la transmission d'un savoir abstrait général, mais comme la mise en rapport des deux, plus, s'il y a plus d'élèves, avec un texte d'un maître antérieur, en l'occurrence Augustin, mais ça peut être Berkeley, ça peut être Heidegger lui-même, ou Plotin, ou bon, et c'est de l'exégèse du texte que sort un effet de vérité, se produit un effet de vérité, tel que l'esprit de l'élève est converti. Car même dans le texte de Jonas, pour t'en citer, qui est très court là, il est question d'une conversion à quelque chose. Dans le cas de Jonas, la conversion est si tragique d'ailleurs que tous ses souvenirs portent sur la relation tragique avec Heidegger, quand Heidegger devient nazi, et là, pour lui, c'est une affaire extrêmement sérieuse qui ne relève pas du journalisme historique. Là, hein, bon. Donc, qu'est-ce qui passe lorsque le maître a trahi, ou en tout cas peut passer pour avoir trahi? Mais c'est ce rapport qui est un rapport foncièrement antique, et je conclurai du coup par un mot que j'emprunte alors à plusieurs des philosophes sur lesquels je travaille, domaine de la philosophie islamique, car c'est un terme qui vient de l'Antiquité, qui leur vient des anciens, comme ils disent, c'est-à-dire des Grecs. Sous la forme arabe, c'est le mot de perfectionnement de l'âme. Alors, pour récapituler, je dirais qu'on a donc deux pôles, au fond, qui font difficulté, qui s'agit de réconcilier. D'un côté, le pôle selon lequel nous découvrons les philosophes comme des moments d'un esprit qui a une réalité objective et qui se déploie, pourrait-on dire, de manière anonyme, indépendamment de ceux qui portent ces systèmes et de ceux qui portent ces pensées, bien après les auteurs des systèmes. Puis de l'autre côté, on a ce perfectionnement qui lui-même est extrêmement problématique. Parce qu'enfin, là, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais c'est, je vais introduire à la fin un petit doute, ou du moins une réflexion interrogative. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il si peu d'étudiants en philosophie ? Il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Il y a très peu de gens qui étudient la philosophie, même pour devenir professeur de philosophie. Le recrutement devient terriblement difficile, si du moins on veut le maintenir à un certain niveau. Eh bien, c'est que, enfin, je me suppose, peut, il y a plein de raisons, hein, on ne va pas les évoquer ici, mais sans doute, c'est que la discipline philosophique elle-même, on n'y croit plus, on y croit difficilement. Pour croire au perfectionnement de l'âme, ou même pour croire au souci de soi, etc., enfin, j'avais préparé un texte de Foucault, mais je n'ai pas le temps de le lire, il faut avoir un cadre cosmologique et métaphysique bien précis. Lorsque les auteurs que j'étudie encore, par exemple au XVIIe siècle en Iran, parlent du perfectionnement de l'âme, c'est quelque chose de très concret. Ça consiste à sortir du monde inférieur, le monde corporel, et à se diriger, à diriger son âme vers un monde concret, qui est le monde intelligible et qui est le seuil du monde de Dieu. Et par conséquent, c'est une affaire qui n'a rien de métaphorique. Ce n'est pas une manière de parler. Et le monde de Dieu est au-dessus du neuvième ciel, la neuvième sphère céleste, et c'est le lieu où les âmes des philosophes vivent après leur mort. Voilà ce que croit un philosophe iranien du XVIIe siècle et même du XXe siècle, encore aujourd'hui. Il y en a qui croient ça. Si vous supprimez les sphères célestes, je pose simplement la question, si vous allez dans le sens qu'on a indiqué, si vous avez un transhumanisme, si vous supprimez le statut ancien de la matière, si vous supprimez le cosmos, et ça fait longtemps qu'il a été supprimé, hein, je m'empresse de dire que je ne crois pas au cosmos antique, hein, ce n'est pas ma conviction qu'il existe toujours. Si vous supprimez ces conditions, disons, essentielles pour la philosophie, et qui l'ont été très longtemps, si vous supprimez, bref, tout ce qui donne un sens concret et effectif, comment croire à ce qu'on lit dans le Phèdre ou à ce qu'on lit ailleurs ? Je fais l'expérience souvent avec des professeurs de philosophie, je leur dis, est-ce que vous croyez ce que vous dites ? Alors, 3 fois sur 4, ils disent pas du tout, donc je leur dis, donc vous faites un métier assez étrange, vous gagnez votre vie en enseignant un truc dont vous considérez que c'est un mensonge intégral. Bon, et ça pose un problème. Alors, vous me direz, grand nombre de philosophies postérieures à la mort du cosmos, bien sûr, à la mort de l'univers. On peut insister sur la vitalité de tout un ensemble de philosophies. Mais, autrement dit, je pose simplement cette question, sans la métaphysique ou avec la transformation considérable qu'a subi le terme même de métaphysique, est-il possible tout simplement que la philosophie soit autre chose que résiduelle, sauf à en faire un système positif de l'esprit positif, ce qui était manifestement la définition de mon prédécesseur.